RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
La politique, vous aimez en parler, ça tombe bien. C'est ce qu'on va faire maintenant dans les GG, dans les grandes gueules, avec Flora Gebali, avec Bruno Poncet et avec Jean-Loup Bonamy. Parce qu'après avoir évoqué Jean-Luc Mélenchon et Arnaud Montebourg et Jean-Luc Mélenchon, on va parler maintenant de Laurent Wauquiez qui apporte son soutien à Édouard Philippe.
Je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté.
C'est vrai. Laurent Wauquiez, le patron des députés Les Républicains, qui, dans un entretien accordé au Figaro, considère Édouard Philippe, par son histoire, ses responsabilités qui ont été les siennes, comme la meilleure incarnation de l'ordre et du sérieux pour 2027.
Avec Laurent Wauquiez, certains diront qu'on n'est jamais déçu. Il y a un an, il expliquait pourquoi il ne croyait pas au projet d'Édouard Philippe. Il avait dit « c'est la même chose que ce qui nous a mis dans le mur ». Un an plus tard, le même, qui, rappelons-le, a été battu sèchement lors d'une primaire interne des LR face à Bruno Retailleau, estime que le maire du Havre est apte à incarner l'ordre et le sérieux et laisse entendre même que Bruno Retailleau devrait savoir se retirer si nécessaire. Alors, peut-être que c'est de la vengeance, et la vengeance c'est un plat qui se mange froid en politique, et Laurent Wauquiez est en train de se venger de Bruno Retailleau qui pour l'instant, c'est vrai, ne décolle pas dans les sondages, est autour de 9, 8, 9, 10%, donc loin derrière Édouard Philippe. C'est vrai aussi qu'il n'a pas tort de dire que si la droite et le centre partent divisés, eh bien nous aurons un second tour sans doute entre Bardella ou Le Pen et Mélenchon. Il a raison de dire que il faudra un seul candidat, mais il le dit très tôt et c'est lui qui le dit. Et quand Laurent Wauquiez parle ainsi, on se dit en fait c'est surtout un mauvais coup pour Bruno Retailleau. Alors est-ce qu'il a raison ou est-ce que c'est un traître?
32-16 pour le dire. Tiens, allez, tout de suite allons au 32-16 avec Jules qui est en Haute-Corse. Bonjour Jules.
Oui, bonjour.
Salut, étudiant en gestion, électeur de droite. Alors, est-ce que c'est la bonne stratégie ou est-ce que c'est de la traîtrise, Laurent Wauquiez? Dites-moi.
Écoutez, ce ralliement, il était prévisible. Hein. Il était prévisible. C'est un choix qui est animé, sous couvert de responsabilité. Hein. Il faut un candidat, tout ça. Ça va être l'argument phare qu'on va entendre à chaque fois. Mais ce choix, il est animé simplement par une haine personnelle envers M. Retailleau. Parce que M. Wauquiez, sur le plan des idées, C'est la même chose que Retailleau et pas la même chose que Philippe. Il n'y avait qu'à l'écouter il y a un an et je ne pense pas qu'il ait changé d'avis sur les idées en un an. Monsieur Wauquiez, il a toujours été de cette droite qu'on qualifie de dure, droite dure et pas proche du centre. Donc c'est un choix uniquement opportuniste. Maintenant, on attend de Monsieur Retailleau qu'il fasse preuve d'autorité et de courage. Il ne l'a pas fait quand il s'agissait de Monsieur Lambrin, de Madame Genevard, est-ce qu'il va le faire pour Monsieur Wauquiez?
C'est-à-dire, vous attendez quoi? Qu'il vire Wauquiez des LR?
Wauquiez ne va pas partir de lui-même. Il va dire, je fais pour qu'il y ait un seul candidat, par responsabilité, alors qu'on sait très bien que c'est simplement pour avoir une place au ministère de l'Intérieur, notamment.
Oui, mais exclure Wauquiez, ça ne changera rien.
Mais ça changera.
Il va se retrouver tout seul, Retailleau.
Eh oui, mais Monsieur Retailleau, c'est le chef du parti.
Oui, mais d'un parti où, si tout le monde s'en va, il est chef d'une coquille vide.
Oui, mais il y a les Français qui votent. Les Français, ils ne sont pas forcément... ils sont pas forcément adhérents, ils sont pas élus, mais ils sont électeurs. Et c'est eux qui feront les voix. Monsieur Wauquiez, il a une voix, comme vous, comme moi.
Sauf que Monsieur Retailleau n'a pas démontré aujourd'hui qu'il pourrait être le meilleur candidat de ce camp-là.
Il s'est corrompu avec Macron.
Ça, on est d'accord. Mais là, il s'agit vraiment du choix de Monsieur Wauquiez qu'on commente et que vous dites, c'est uniquement par opportunisme.
D'accord. Jules, vous avez raison.
Mais Jules, moi, ce que je voudrais comprendre pour vous, électeurs de droite, ce que vous voyez, c'est quelle est la meilleure chance de gagner l'Élysée en 2027, c'est ça? C'est ce que vous voulez?
Pour moi, vous dites, un candidat de droite et du centre, c'est un candidat du centre, c'est pas un candidat de droite.
Oui, c'est vrai.
Voilà. D'accord. Alors, vous, quel est votre candidat?
Retailleau.
Là, actuellement, j'en ai pas
D'accord, c'est bien ce qui me semble.
Ah, même pas Retailleau.
Pourquoi vous n'êtes pas avec Retailleau?
Moi, je serais plus côté Lisnard, vous voyez.
D'accord.
Ah oui, il y a
donc
beaucoup,
vous-même,
y a beaucoup de gens à droite qui aimeraient les faire.
Donc vous-même, vous.
Il y a eu le courage de partir.
Oui, mais vous-même, vous n'êtes pas dans la ligne, donc vous êtes comme Wauquiez finalement.
Oui, mais c'est pas un traître. Il rallie pas le Macron.
Non, Jules, il a même quitté
Jules, Jules, voilà, vous avez posé la discussion. Maintenant, on va en parler entre nous. Alors, est-ce qu'il a eu raison, Laurent Wauquiez? Est-ce que c'est de la stratégie ou est-ce que c'est Brutus, un coup de poignard dans le dos?
Mais écoute, j'écoutais il y a quelques jours un podcast d'histoire sur la société mérovingienne. 6e, 7e siècle après Jésus-Christ. Et j'ai appris que chez les Mérovingiens, ils faisaient des cartes assez précises, hein, des cartes du monde assez précises, de bonne qualité, mais quand même, il y avait quelque chose un peu surprenante. Par exemple, il y a une carte qui représentait une île imaginaire. Et pour eux, dans leur esprit, c'est l'île où Judas allait se reposer le dimanche. Il était en enfer pour avoir trahi le Christ du lundi au samedi. Mais le dimanche, par mansuétude, il était autorisé à se reposer des souffrances de l'enfer dans cette île.
Et tu dis c'est aura, toi.
Si jamais on découvre cette île un jour, je me demande si le dimanche, on n'y trouvera pas Laurent Wauquiez. Parce que Laurent Wauquiez, le problème, c'est qu'il ne se rend pas compte. En plus, c'est marrant parce que il se trouve que j'ai croisé Laurent Wauquiez lundi soir à la réunion des contributeurs du journal Le Point. Je suis un peu parlé, très sympathique. Et j'avais voulu lui donner un conseil que je n'ai pas eu le temps de lui donner. J'avais voulu lui dire, Lolo, sois fidèle à Retailleau, même si tu le détestes, parce que ça soignera ton image. Tu pourras casser l'image de traître que tu as déjà.
Et bim.
Et là, vraiment. Et évidemment, sur les réseaux, j'ai regardé hier les commentaires du Figaro pour voir ce que pensaient les gens de droite. Il y a des centaines de commentaires. Il n'y en a pas un seul positif.
Ben non.
Il n'y a pas un seul lecteur du Figaro qui a salué la trahison du sœur Wauquiez.
Et pourtant, peut-être que stratégiquement, il a raison.
Oui, mais il casse son image, oui, il rattrape pas.
Lui, mais peut-être qu'il a raison de dire
les gens qui circulent sur les réseaux sociaux.
N'oublions pas que Laurent Wauquiez, il est le patron du groupe LR à l'Assemblée nationale. Donc, il est le numéro 2 du parti, de fait, après Bruno Retailleau. Donc, ça nous montre bien aussi à quel point les partis politiques sont obsolètes et sont en crise. Quant à le numéro 1 du parti qui est candidat et le numéro 2 du parti qui soutient un autre candidat, c'est le patron des députés. Enfin, c'est quand même un rôle statutaire très important qui soutient. Pour moi, enfin, j'imagine que les députés LR vont le virer
Il y a eu un vote des adhérents. Il y a un vote des adhérents LR pour désigner Bruno Retailleau, dont Laurent Wauquiez se moque complètement.
Donc, déjà qu'il y a que moins de 0,5% des Français qui adhèrent à un parti politique, avec ce genre d'attitude, ça donne vraiment pas envie.
Bruno.
Moi, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que là, on parle d'un parti qui a dû faire 3 ou 4% dernière présidentielle.
4,5%.
Donc, qui est vraiment un parti faiblard. Et en fait, je ne comprends pas personnellement, tu vois, politiquement, après, moi. Le Wauquiez qui trahit, c'était quand même pas une surprise. Mais je comprends pas que tu fasses ça au mois de juillet 2026.
C'est tôt.
Élection mai 2027. Que tu fasses ça en mars, avril,
en disant. Il y a le meeting d'Edouard Philippe, dis-moi.
Ah oui, donc ça veut dire qu'il va
être. Mais c'est un gaffeur, Laurent Wauquiez est un gaffeur.
Il sera pas présent.
C'est dans une période. Mais en fait, ils sont en train de mettre des coins dans la droite, un par un. Mais en fait, je le dis là, depuis tout à l'heure, c'est pas mal. Ils sont en train de tout renforcer, et le RN et Mélenchon, à force de s'entretuer.
Et Edouard Philippe, du coup. Alors c'est amusant parce qu'on a l'impression que se reconstitue autour d'Edouard Philippe l'UMP d'avant, parce qu'il y a donc Wauquiez,
vous avez Copé,
NKM qui est revenu, Nathalie Kosciusko-Morizet, Éric Woerth, tu as Maud Bréjon, mais qui est l'aile droite de Macron.
C'est l'UMP de 2010.
En fait, on a l'impression. Alors donc, t'as une bonne partie déjà du gouvernement Raffarin. Donc là, ça nous remonte.
Ça fait rêver.
Qui rejoint Édouard Philippe. Alors effectivement, on va avoir ces gens-là autour d'Édouard Philippe, l'UMP de retour.
Mais plus, tu as raison, plus l'aile droite de la Macronie qui petit à petit.
C'est l'UMP de 2003.
Donc est-ce que c'est gagnant pour Édouard Philippe? C'est ça la question.
Moi, je crois surtout que c'est pas gagnant pour les Français qui ne veulent plus de ça, en fait. En fait, la Macronie et tous ces gens-là ont été balayés une fois pour toutes. Moi, je pense
pas vraiment la Macronie.
Ça pue la
loose. N'est pas dans la
Macronie. Non, mais là, ça sent la défaite à plein nez. Moi, je te garantis que Édouard Philippe
est en train de gonfler.
Non, je suis pas d'accord avec toi parce que ça va au-delà de la Macronie. Wauquiez, NKM, Copé n'a pas été en Macronie.
Bien sûr.
Mais à un moment donné, ils avaient appelé
Édouard Philippe, il a été Premier ministre d'Emmanuel Macron.
D'accord,
tu as sûrement des personnalités, comme tu dis, Maud Bréjon, qui vont suivre.
Oui, mais
Bréjon.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il va au-delà de ça.
Donc ça va donner quand même, veux, une image Raffarino-Macroniste.
Juppéo-Macroniste.
Raffarin,
oui, mais s'il arrive à regrouper, une bonne partie de la droite et le centre, je suis désolé, second tour est assuré.
Olivier, c'est ce qui manque. Il manque Bréjon, il manque Berger et Schiappa. Et là, t'as la machine à défaite la plus importante que j'ai jamais en France. On a Pierre, Pierre qui a la grosse Bertha en 14.
Pierre qui va en parler avec nous, l'artisan paysagiste de l'Hérault, un fidèle des GG. Bonjour Pierre.
Oui, salut l'équipe, la grande alors, équipe.
Mon cher Pierre, vous qui êtes, si je me souviens bien, électeur de droite, il me semble.
Oui, hein. J'étais, oui, je pense.
du coup, comment vous réagissez à la stratégie Wauquiez alors?
Comme j'ai écrit, je pense que la droite est morte, mais elle bouge encore. Ouais. Elle arrive encore à faire des stupidités, à nous rendre complètement fous.
Ah, une stupidité,
vous dire, oui, là, c'est vraiment stupide. Là, c'est sûr que on a bien compris que M. Wauquiez cherchait la soupette, hein, du côté du favori de l'élection, c'est M. Philippe. Mais en étant de droite, M. Philippe, il n'est vraiment pas de droite. Hein. C'est un centriste. Pour les Américains, on dirait communiste. Nous, on dit centriste, mais. Mais non, non, là, franchement, là, c'est n'importe quoi. Mais on l'a déjà vu avec Mme Pécresse. Je veux dire, c'est sûr, c'était pas le meilleur choix pour l'élection passée. Mais de là à la trahir, à faire ce qu'ils ont fait avant, moi, c'est surtout ça hein, qui me reste en travers de la gorge. Et là, on va dire que, comme a dit M. Bonamy, on va dire que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. M. Wauquiez. C'est la soupette, c'est l'ancien monde, c'est l'ancienne politique. C'est la droite qu'on veut plus, la droite républicaine.
Oui, mais la droite républicaine qu'on a perdue, puisque je reprends votre expression, elle est incarnée par qui aujourd'hui dans la perspective de la présidentielle?
En soi, celui qui a le meilleur programme, qui est le plus intéressant, c'est M. Lisnard. Voilà. Parce qu'on va dire que c'est un libéral, il dit des bonnes choses. Moi, à titre personnel, je pense qu'il pourra rien faire comme les autres. Hein. Il peut dire ce qu'il veut en termes de libéralisme. Je pense qu'en France, ça ne marchera pas.
C'est surtout qu'il apparaît un peu seul.
Qui, malheureusement, a du mal à décoller, comme on le voit. Ouais. Je pense que M. Retailleau, il incarne aussi l'ancien monde. Il était avec M. Macron récemment. Ouais. Je pense que ça va être très difficile pour lui. Là, c'est le coup de poignard vraiment dans le dos pour la droite. Je pense qu'on est cuit. Je pense qu'on est reparti pour moi. Moi, si je mettrais une pièce, si je devais faire des paris, ça serait M. Philippe, malheureusement. Je pense que là, ils sont en train de bien décoller.
Vous dites malheureusement.
Pour vous, Édouard Philippe n'est pas de droite?
Non. Pour moi, il est pas droite. On l'a bien vu avec les 80 km/h, avec les autoroutes. Non, on va même pas.
C'est l'homme qui a fermé Fessenheim.
Moi, j'ai pas oublié tout ça. Moi, j'ai pas oublié tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, les gilets jaunes, contrairement à certains. Qui encore à la télé, à la radio, on nous explique que les gilets jaunes, ils sont sortis du chapeau comme ça, que c'était des vieilles personnes.
Alors, Pierre, voilà, pour vous, c'est une trahison. La droite, oui, vous dites, la droite est morte. La droite républicaine, telle que vous la voulez, telle que vous pourriez voter pour elle.
Mais là, je pense qu'elle est carrément terrible.
Alors, restez avec nous, Pierre, pour écouter un autre électeur de droite. C'est Hervé, il nous appelle de Gironde, qui est chef d'entreprise. Ouais, bonjour, Hervé. Vous avez entendu ce que dit Pierre? Vous êtes sur la même ligne ou pas?
Alors, déjà, je fais une parenthèse politique. Les traîtres en politique, il y en a dans tous les partis. Hein. On fait l'historique. Tout le monde est avec une année et dit.
Oui, c'est l'histoire de la vie politique.
C'est la prime aux traîtres, surtout. Hein. Voilà, les traîtres, ils s'en sortent mieux que les gens intègres en politique.
Ouais. Après, voilà. Alors, moi, je dirais deux choses. La première, c'est que Laurent Wauquiez, pas toujours très droit dans ses bottes, mais il y a une chose qu'il prône depuis quelques mois, c'est l'union des droites. On peut pas lui enlever. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que de l'autre côté, de l'échiquier de droite, Sarah Knafo, par exemple, est quelqu'un qui aussi prône l'union des droites. Intéressant, cette semaine, elle était en meeting, ou du moins en réunion ouverte avec David Lisnard. Intéressant aussi. Et je pense que on va avoir des surprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui sort au-delà de LFI et au-delà de du RN, c'est Édouard Philippe. Les deux qui sont un peu les dindons de la farce, je dirais, c'est Retailleau et Attal qui sont tout seuls. Ils ont personne derrière eux et qu'à un moment donné, les gens commencent à voir qu'Édouard Philippe peut représenter. Alors certains le pensent du centre. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui hérite un petit peu de Juppé dans le style, etc. et tout. Incarne une nouvelle droite. Alors peut-être que ça va paraître un peu bizarre pour certains, mais avec un rassemblement de droite que beaucoup d'électeurs.
Mais
comme
ça peut aller jusqu'à Sarah Knafo. Vous croyez que ça pourrait être
neuf? Je vais vous dire quelque chose. Parler. Je vous parie que d'ici à la fin de l'année, des gens comme Listaring Info vont se rejoindre pour avoir une force de droite qui pourra ensuite incarner ce que les gens veulent, c'est-à-dire un peu de libéralisme, un peu d'économie, de la sécurité et du social.
Mais excusez-moi, est-ce que ça ne s'appelle pas Jordan Bardella, ce que vous venez de décrire, et qui a 35% d'intention de vote?
Jordan Bardella n'est pas un libéral, je suis désolé. Non. Il ne prend pas l'économie. Le Rassemblement National qui prend la retraite à 60 ans, il faut à un moment donné, on n'est pas dans la même situation. Aujourd'hui, je pense qu'on va retrouver, alors certes, il y aura peut-être des anciens, mais bon, l'expérience, ça fait aussi. Et puis, par rapport à ce que disait l'auditeur précédent, monsieur Édouard Philippe, la semaine dernière, a fait son mea culpa sur les 80. Il a dit, j'ai fait une erreur, je l'ai admis, on s'est planté. On a le droit dans la vie de se planter. On a le droit dans la vie politique, dans la vie professionnelle.
Moi, je ne vois pas du tout, pardon, Sarah Knafo, excusez-moi, Sarah Knafo défend Édouard Philippe. Là,
ni Édouard Philippe accepté.
Écoutez, je pense que c'est aujourd'hui des gens qui sont entre le centre, qui n'existera plus, et le Rassemblement National. D'accord. Si ces gens-là veulent exister, ils ne peuvent exister qu'ensemble. Et Sarah Gnafo a prôné dans ses discours régulièrement, elle l'a fait à Paris, et ça n'a pas marché, le Rassemblement de la droite.
Oui, mais quand elle dit le Rassemblement de la droite, là, vous trompez un peu sur ses propos, parce que quand elle dit le Rassemblement de la droite, elle pense avant tout au RN, à elle, et effectivement une partie de la droite. Mais je pense pas qu'elle pense précisément à Édouard Philippe.
Aujourd'hui, Éric Zemmour n'ira pas avec le Rassemblement National, donc...
Il n'ira pas non plus avec Édouard Philippe.
Ah non.
Alors, Hervé, ce qui sera intéressant, c'est de voir quelle est la tonalité du discours d'Édouard Philippe, puisqu'il prend la parole ce week-end.
C'est son premier grand meeting. Voilà, tout ça, c'est bon pour lui, parce que il a le vent dans le dos, on va dire. Parce que quand il y a des gens qui te rejoignent, c'est toujours mieux que quand t'as l'impression d'être tout seul. Là, c'est bien.
Il reste 9 mois,
Hervé, on verra. Ça sera le premier temps fort de cette campagne. Après, oulala, il y aura des rebondissements. L'été va passer la semaine prochaine.
Mardi.
On saura si Marine Le Pen peut être candidate.
Et le 9, il y a le vote du PS.
C'est marrant.
Alors, c'est bizarre.
Ça n'intéresse personne. On a noté cette date.
Personne n'en a.
C'était une vanne, je le disais pas au premier degré.
Laurent Wauquiez se rapproche d'Edouard Philippe. Est-ce que c'est traître ou stratège? Je vous dis traître à 84%. À suivre maintenant dans les GG, la ruée sur les 200 000 ventilateurs et climatiseurs chez Lidl. On s'est battu pour s'acheter les climatiseurs et ventilateurs chez Lidl à des prix cassés. Alors, bravo, bien joué. Enfin, est-ce que c'est pas la ruée de la honte quand même? 32-16 pour en discuter avec les GG.
Qui conteste, qui revendique et qui proteste. Moi je ne fais qu'un seul geste. Je retourne ma veste. Je retourne ma veste. Toujours du bon côté.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Il sort sa carte. 11h25 avec Flora Gebali, Bruno Poncé et avec Jean-Loup Bonamy. Regardons ce qui s'est passé du côté des magasins Lidl qui annonçaient super opération com. 200 000 ventilateurs et climatiseurs en vente aujourd'hui. Dans des endroits, ça a été le chaos.
Lidl.
On a des images qui ont été tournées par BFM TV ce matin. C'était notamment du côté de Nanterre. Alors les gens attendaient. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'en même temps tout le monde attend et puis tout le monde filme ce qui va se passer comme si tu venais un peu au spectacle. Mais c'est vrai qu'il y a même une porte qui a cédé, je crois, sous la pression à Nanterre. Et c'était d'acheter les ventilateurs et les climatiseurs qui étaient promis par Lidl. À des prix cassés, bien sûr, parce que dans ces cas-là, on te les annonce moins cher que la concurrence.
C'est une opération géniale, hein, parce que Lidl vend 200 000 climatiseurs et ventilateurs dans ses magasins, alors qu'il y a une nouvelle vague de chaleur qui démarre dès ce week-end et qu'il y a un problème de stock. C'est-à-dire que si aujourd'hui, moi, j'ai regardé, hein, je voulais m'en acheter un climatiseur, j'ai regardé sur des sites, etc., t'es livré fin juillet, donc après ces vagues de chaleur.
Sombre.
Donc là c'est génial. Alors, il y a eu le problème, c'est que ça a viré au chaos. Notamment à Nanterre, visiblement dans les Hauts-de-Seine, il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. On voit la foule qui débarque. Il y a les clients qui, impatients, se pressent sur les portes coulissantes entrouvertes et qui finissent par faire céder les portes. La porte est tombée au sol. Bref, il y a eu des disputes dans les magasins parce que il y a des magasins qui ne proposaient que 10 climatiseurs. Alors forcément, quand il y a une centaine de personnes qui arrivent, c'est la bagarre. Est-ce que vous trouvez ça ridicule, honteux, ou est-ce que vous comprenez cette cohue?
On a un employé de chez Lidl là, qui est avec nous, c'est Laurence, qui est du côté de la Gironde. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Sacrée opération de com', elle était prévue depuis longtemps ou pas cette OP
Alors, c'est pas une OP du tout en fait, hein. Ouais. C'est un produit qui était là à la vente. Moi j'ai le catalogue sous les yeux. En fait les produits étaient là depuis le... le 2 juillet. C'était prévu que ce soit vendu aujourd'hui. Il y a plusieurs ventilateurs, ventilateurs colonnes, ventilateurs de table, voilà, plusieurs ventilateurs. Et c'est des ventilateurs qui ont déjà été en plus mis, et des climatiseurs qui ont déjà été mis à la vente. Et même jeudi dernier, il y avait déjà une vente de ventilateurs.
Et ça a bien marché ce matin ou pas?
Alors moi, ce matin, je travaillais pas, mais bon, je suppose que ça devait être la cohue, mais comme tous les matins, hein, devant la porte. Les gens, ils sont là à 6 heures du matin, hein, on sait jamais, au cas où on ouvrirait plus tôt.
mais, parce qu'en fait, c'est un problème de stock, parce qu'en ce moment, il y a une pénurie de ces produits-là.
Mais ce qu'il y a, c'est que nous, en fait, en plus, en tant qu'employés, bon, je vois là, je regarde la télé en même temps, les gens prennent en photo comme quoi il n'y a plus rien, etc. Mais en fait, et puis en plus, ce qu'il y a, c'est que nous, en tant qu'employés et salariés, on n'y est pour rien, c'est qu'on reçoit un certain nombre de climatiseurs en magasin. Et voilà, on en a 10, on en a 10. Il y a des magasins qui ont reçu que 2 climatiseurs, donc...
Ah oui, donc c'est la bagarre, là.
Et
comment vous faites alors face au risque de confrontation entre consommateurs? Vous avez des consignes? Comment ça se passe?
Aucune. On laisse faire.
Vous laissez les clients se battre?
Ah, il y a quand même le service sécurité.
Pas du tout.
Comment ça?
Ah non, non. Enfin, moi, dans mon magasin, on n'a pas d'agent de sécurité. On n'en a jamais eu. Dans certains magasins, ils en ont un, mais à tous les coups, il n'était pas là ce matin. Donc voilà.
Donc, après, quand ça dégénère. Quand ça dégénère, on l'espère.
Mais qu'est-ce que vous voulez faire? En tant qu'employé, on va pas se faire taper dessus pour un climatiseur, quoi.
Mais ces images de personnes qui se battent pour un climatiseur, c'est vraiment, elles sont choquantes. C'est vraiment l'entrée dans la dystopie écologique qu'on voyait dans les films avant. C'est-à-dire que on est dans le jour d'après. Enfin, ça y est, on y est dans le monde à plus de degrés. Et en fait, là, on se bat pour des climatiseurs, ça va, on va pas se voler la vie. Mais quand on va se battre pour de l'eau douce, pour du pain ou pour une boîte de conserve. Pour nos enfants, vous pensez qu'on va, se battre juste où?
Je ne sais pas si vous vous rappelez de Intermarché avec les pots de Nutella.
Ouais, les gens se battaient pour Nutella.
Voilà,
les gens
mais ça, c'était parce que c'était une maxi promo.
Il y a quelques années, les gens se battaient pour des litres d'huile chez Lidl. Oui.
Donc, oui, voilà, c'est vrai.
Parce que les gens sont pauvres, parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat.
Parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Mais quand demain il va y avoir un problème d'eau douce et que Lidl annoncera sur les réseaux sociaux, parce que vous inquiétez pas, on n'aura plus d'eau, mais on aura encore de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux, vont venir nous expliquer qu'il y a des stocks de cristalline qui arrivent en rayon, on va y aller et puis on va s'entretuer. Parce que quand il faudra donner de l'eau douce à nos enfants, ce sera notre priorité.
Laurence, je voudrais, parce que vous avez expliqué comment c'était passé, quelle était la genèse de l'opération, mais enfin vous dites c'est pas une opération, ils étaient là, on les avait en stock, mais je voudrais qu'on écoute Mel qui est du côté de la Haute-Savoie, parce que vous étiez au Lidl de votre coin ce matin, hein, Mel, c'est ça, bonjour.
Bonjour à l'équipe, oui, j'étais
Il y avait du monde?
Alors moi j'y étais depuis 7h du matin et il y avait déjà 10 personnes devant moi, sauf qu'à partir de 8h on s'est retrouvé à 80 personnes parce que l'accès dans le hall du magasin était que par le parking souterrain, donc la porte principale de Lidl était fermée, on comme des bêtes. Quand vous avez le directeur du magasin qui sort en nous gueulant dessus, sous la façon, ça sert à rien de vous bousculer. On en a 6.
6.
Désolé, monsieur. 6, monsieur.
Des quoi? Des climatiseurs?
Des climatiseurs, oui.
À combien? Combien ils étaient vendus?
À 179€, 178, je ne sais plus. Alors, vous vous rendez compte, monsieur, que quand on a 6 climatiseurs,
comment vous avez fait?
Qu'est-ce que j'ai fait, monsieur? Quand les portes sont ouvertes, on m'a bousculé et j'ai été vers le personnel et le directeur du magasin. J'aurais dit, vous n'avez pas honte de nous filmer comme des animaux. Quand on a 6 climatiseurs, monsieur, on les met sur Internet, c'est le premier qui peut les acheter, ben, tant mieux pour lui. On ne fait pas des opérations et de la publicité sur le dos des gens et la pauvreté des gens, monsieur.
Ouais, ça, voilà, vous n'avez pas tort.
C'est ça à dire.
Non, mais vous n'avez pas tort. Moi, je suis d'accord avec vous. Quand il n'y a que 6 produits, on ne prend pas le risque d'organiser un attroupement où ça va mal finir. C'est assez cynique. C'est cynique,
ouais. Monsieur, Lidl a fait 200 000 climatiseurs pour tous les leaders de Lidl de France. Ils ont fait juste une grande campagne de publicité sur le dos des pauvres et des gens qui étaient là depuis 5 heures du matin. Moi, quand je suis arrivé à 7 heures, il y avait des gens qui étaient là depuis 5 heures. Non, mais c'est la honte de Lidl, la honte de Lidl.
Il y a eu Il y a eu de la friction un peu. Il y a des gens qui s'en sont venus aux mains, Mel.
Mais bien sûr, tout le monde avait sa propre excuse. J'ai un bébé, j'ai un enfant malade, j'ai une femme enceinte.
Tu dis pas aux gens de venir si t'as que 6 produits.
Tout le monde est vulnérable. Tout le monde a.
Mais voilà. Mais moi, j'avais pas envie. J'ai été bousculée.
Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait demi-tour? Vous êtes reparti?
J'ai fait demi-tour après me disputer avec le personnel et le directeur qui est en train de filmer. Que j'ai arraché le téléphone de main. Il m'a dit, je vais vous appeler la police. Appelez-la, la police.
Et pourquoi il filmait le directeur?
Pour monter tout ça à la direction pour montrer qu'ils ont fait un.
C'est tout,
mais bien sûr.
C'est quand même très cynique.
Ils n'ont rien à vivre, mais bien sûr. Ils cherchent que jouer sur la pauvreté et la misère des gens. Point là, merci Lidl.
C'était votre coup de gueule, Mel, on peut le comprendre.
D'accord avec Mel, là,
son coup de gueule. Et moi, ce qui est représenté de tout ça, c'est cette misère sociale accompagnée d'une misère écologique aujourd'hui. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des gens qui viennent de vivre 10 jours dans des appartements surchauffés, dans des
trains
de transport surchauffés. Parce que si des gens de région parisienne, ils prennent les transports, Pécresse, qui est responsable des transports en région parisienne, elle les a toujours pas mis.
Si, il y a la moitié.
Il y en a combien? Excuse-moi, moi je peux dire, je prends tous les jours.
La moitié.
Pas du tout. Des fois, c'est une rame sur 12 ou sur 8. Et en fait, t'es là, vraiment cette misère-là. Et oui, évidemment que Lidl, parce que Lidl, c'est quand même le discounter et c'est l'endroit.
Mais c'est dégueulasse d'en mettre que 6. C'est-à-dire que tu laisses croire que tu en as 200 000, c'est 200 000 répartis, donc il n'y en a que 6 en magasin.
Et c'est aberrant que le directeur lui-même ou que le personnel filme les gens.
Tout ce qu'il aurait dû faire, c'est une espèce de tirage au sort et qu'après, les gens, ils les retiraient derrière. Et
les mettre sur Internet.
Voilà, c'est tout. Et éviter que les gens s'attroupent. Mais après, tu as aussi un problème. Même sur les sols, tu as les gens qui s'attroupent pour aller récupérer un auto, enfin, pour récupérer quelque chose à 50%. En fait, aujourd'hui, les gens dans la consommation sont devenus dingues. Et je pense que Flore a raison. Le jour, ce sera pour de la flotte.
La faute à qui?
Ils sont devenus dingues parce qu'ils
sont devenus dingues à cause de qui? Ils sont devenus dingues à cause de la politique qui leur a expliqué que consommer, c'était être heureux.
Oui, enfin,
qui leur a expliqué qu'il fallait travailler plus. Qu'il fallait. Non, mais justement, c'est ça. C'est là. Oui, mais vous vous rendez compte qu'on a des choses qui servent à rien dans tous les magasins de France, mais les choses utiles, l'économie du besoin, il y en a plus. Donc en fait, bientôt, on va avoir des fringues chines, mais on va pas avoir de clim. On va avoir des choses qui servent à rien, mais on va pas avoir de produits dans les magasins. Enfin, c'est ça le monde qu'on a créé. Ça, c'est la politique.
Il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous complètement. Je pense que malheureusement, j'ai la réponse. Mais où sont fabriqués ces climatiseurs?
En Chine,
Alors voilà, ces climatiseurs étant fabriqués en Chine, contribuant alors à la désindustrialisation
c'est ce qu'on fait maintenant.
Et au déficit commercial du pays. Voilà, ça ne me va pas. Si les mêmes étaient fabriqués en France, ça m'irait très bien. Donc, et pourquoi est-ce qu'en France, on n'est pas capable de fabriquer des ventilateurs et des climatiseurs? C'est la seule question.
Et d'ailleurs,
si on fabriquait des climatiseurs et des ventilateurs en France, ça ferait de l'activité économique, on serait moins pauvres et du coup les gens auraient plus de
Jean-Loup,
moyens.
Pourquoi dans la crise qu'on vient de traverser avec la deuxième canicule, Sébastien Lecornu n'a pas annoncé qu'il ouvrait 10 usines de clim, qu'il y avait un grand appel d'offres pour les entrepreneurs. Attends. Il y a un énorme appel d'offres pour les entrepreneurs qui... Oui, on continue ce débat, il est très intéressant. Lecornu, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il fait un énorme appel d'offres et il dit, tous les entrepreneurs de France qui veulent se lancer dans le business des climatiseurs, des ventilateurs, voilà comment l'État vous accompagne, parce que ceux qui pensent que les Chinois ils fabriquent des clims tout seuls se trompent. C'est une économie qui est subventionnée publiquement.
Flora.
Donc, il faut subventionner notre économie,
Subventionner, rien n'empêche une entreprise française, si on avait un coût du travail qui n'était pas exubérant, si on laissait les entreprises se développer dans ce pays,
Je voudrais que Nathalie nous raconte ce qui s'est passé à Nanterre ce matin.
C'était chaud.
Bonjour,
bienvenue. Parce que vous, ce que vous avez vu, c'est des gens ramasser tout ça en masse.
Les portes sont par terre, il n'y a plus rien. J'ai été pour chercher un ventilateur pour un monsieur là, à côté de moi. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus rien. Mais le problème, ça vient de Lidl aussi. Parce que des fois, il y a 3 semaines, il y a eu une opération comme ça. Moi, j'y étais à 7h15 le matin pour acheter 2 ventilateurs sans pales. Là. Mais les gens achètent ça par 3-4.
Ah bon?
Ah oui?
Ah ben ça, on devrait limiter.
3-4, ils ont des caddies, ils vendent des tours. Les gens achètent ça par 5-6, mais c'est pas pour eux.
Mais le magasin devrait limiter.
C'est ce que je leur ai dit 20 fois. Ils devraient limiter. Quand vous avez des machines à coudre, ils achètent ça par 3-4, c'est pour les revendre ou pour emmener au bled. Voilà. C'est ce qu'ils disent, c'est pour emmener au bled.
Mais du coup, à combien étaient les prix ce matin, ce que vous avez vu, Nathalie?
179 euros.
Il y a eu des bagarres?
Il y a eu de la bagarre, c'est pas comme toujours.
C'est fabriqué en Chine, ça.
Il y a trois semaines, là, non, pour avoir de mon ventilateur sans poil, j'étais à 7h du matin devant la porte, il a presque fallu me coucher devant la porte.
Alors, Nathalie, depuis qu'on a commencé la discussion, tout le monde raconte son aventure chez Lidl, ce qui s'est passé. Moi, je vous propose quelque chose, c'est... Vous en parlez tout à l'heure avec Estelle Denis, parce que Estelle, elle va reprendre le sujet,
oui,
justement. Là, le standard, est... tout le monde veut raconter ce qui s'est passé.
Le standard est bouillant.
Le standard,
caniculaire.
Le standard est bouillant. Standard. Rendez-vous. Merci Nathalie de nous avoir raconté ça. Je vois Daniel, militaire aussi, dans l'Ain, qui lui s'étonne en disant, mais enfin, c'est plus possible. Quel est notre degré de civilisation pour qu'on en arrive là? Daniel, vous allez commenter ça avec Estelle Denis
quand même
tout à l'heure.
Si c'est pas en train de se retourner contre Lidl, midi. Cette opération.
Mais puisqu'on est sur les dysfonctionnements français et qu'on parle de climatisation, moi, je vous propose dans un instant, là, pour les 10 dernières minutes, qu'on s'intéresse à ce que dit qui? Monsieur Jean Castex, le patron de la SNCF.
Un saint homme.
Désolé, un saint homme, dit Bruno Poncet. Désolé, mais Jean Castex,
Monseigneur Castex, pas sûr
pour le premier week-end de vacances, là, avec la chaleur, pas sûr de pouvoir assurer tous les trains. 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. À tout de suite avec nous, il est midi moins 25.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
C'est avec les GG que vous concluez l'émission maintenant au 32-16 avec Flora Guebali, Bruno Poncet et avec Jean-Loup Bonamy. On va parler de la SNCF, on est sur un gros week-end de départ en vacances et on a la canicule, ou tout du moins une grosse vague de chaleur qui revient. Et du coup, Monsieur Castex, saint patron, comme le dit notre cheminot Bruno Poncet, nous dit « Attention, je ne suis pas sûr que ça fonctionne à 100%. »
Non, là j'ai l'impression que c'était...
Je ne peux pas garantir que tout va marcher très bien à 100%. À situation tout à fait exceptionnelle, on ne peut pas attendre un service complètement normal. Je vous le dis, nous préparons. Comment ? Eh bien, d'abord, nous avons mis au repos un certain nombre de rames TGV. Donc, on se fait un peu engueuler parce qu'on a dû annuler préventivement cette semaine des rames pour les préparer, pour vérifier que tout marche bien et qu'elle soit pleinement opérationnelle. On a mis au maximum nos ateliers de maintenance, la surveillance de la voie, la surveillance des catélères.
Non. Alors là, non. Non, moi je dis non.
Excellent, excellent.
Oui, pas
je dis
ça,
non.
Excellent.
Oh non.
Oh, je dis non. Je prends. Donc, vous avez entendu Monsieur Castex, patron de la SNCF, c'est-à-dire la canicule, les rames qu'on a mis au repos, les départs en vacances, les nouvelles vagues de chaleur. Pas sûr qu'on puisse faire le boulot à 100%.
Mais la SNCF est à l'image de la France. Voilà, une France qui n'est pas prête à vivre ces canicules à répétition. Pourtant, Jean Castex a été Premier ministre et quand il était Premier ministre comme les autres, il nous expliquait, il explique aux Français, vous savez, il va falloir vous préparer, le réchauffement climatique est là, on va changer d'époque, etc. Bon, mais malheureusement, on voit que rien n'est fait. Alors là, en urgence, Monsieur Castex nous explique que 71 trains intercités ont été supprimés jusqu'à lundi. Alors, comme d'habitude, on privilégie plutôt le TGV. Donc, c'est les intercités, les trains du quotidien qui sont dans ce cas-là sacrifiés. Et puis ailleurs, on dit, écoutez, si vous voyagez ce week-end, il est recommandé de vérifier l'état de votre train. Donc bon courage, parce que c'est le premier week-end de départ en vacances, il y aura du monde dans les gares, donc bon courage à tous ceux qui vont prendre un train ce matin, mais c'est ça la France.
Bruno ?
Je rappelle juste que la semaine dernière, on a fait rouler plus de 80% des trains malgré les conditions climatiques.
Avec beaucoup de
retard. J'ai pris 7 heures dans la truffe dans un train au départ du sud-ouest. C'est comme ça. Ah voilà, malheureusement.
Ah voilà, c'est comme ça.
Non, mais c'est normal. Quand une caténaire tombe sur un train, mon cousin, tu peux pas faire autrement
d'attendre
7 heures.
Et alors, comment se fait-il que les trains circulent dans des pays où il fait chaud toute l'année sans problème?
Est-ce que t'es dans des pays qui fait chaud toute l'année? Parce que monsieur, alors là, je trouve ça exceptionnel. T'as des trains qui roulent à 320 km/h.
Oui, au Japon.
Oui, alors t'es un pays qui fait très très chaud toute l'année.
Ah, au Japon, il y a des trains très chauds l'été.
Et leurs trains là-bas, c'est des pendulaires. Hein. C'est pas des trains comme eux qui sont sur les rails, il y a même le sol.
Ah,
bah ouais. Bah oui. Hein.
Au Japon, l'été, les trains.
Moi, je trouve que là-dessus, Castex, il a été Moi, je trouve, c'est un principe de précaution, ce qui est évident, mais je trouve qu'il a raison. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'on fait tout pour que ça se passe bien, mais on n'est pas à l'abri d'un feu de talus. Donc, à un moment donné, si t'as le feu le long des voies, t'as rien qui roule. On n'est pas à l'abri qu'une caténaire tombe parce que métal contre métal, ça risque de casser. En fait, voilà. Mais en attendant, l'année, la semaine dernière, on a fait rouler 80% des trains. Et oui, t'as raison. On a mis un peu de côté certains intercités parce que le matériel est vieillissant et que le matériel, on attend des livraisons de matériel qui sont en retard. Pareil pour le nouveau TGV. Le nouveau TGV aurait dû commencer son exploitation il y a déjà plusieurs mois, voire même plusieurs années. On l'attendra et ça sera à partir d'un petit peu de juillet et surtout à partir de septembre. Malheureusement, on est tributaire d'un tas de choses. Et voilà. Mais en fait, en attendant, on fait rouler des trains tous les jours et mes collègues, moi, se décarcassent pour que ça se passe bien. Et aujourd'hui, il a fait des prévisions cette semaine. C'est vrai que c'est un tunnel, mais c'est normal pour un train. Et je trouve réellement qu'on va tout faire pour que ça se passe bien à partir de samedi. Mais là, il vous prévient. Mais comme un chirurgien te prévient toujours avant en te disant, écoutez, on sait pas comment ça va se finir. Eh ben, nous, avant, ouais, on prévient. On prévient, on va tout faire pour que ça marche bien. Et peut-être ça marchera un peu moins bien que prévu.
Flora.
On est face à une crise inédite, puisqu'il y a eu des chaleurs inédites. C'est pas très compliqué à comprendre. C'est-à-dire que là, on entre dans un monde qu'on n'a jamais eu l'habitude de gérer et qu'on ne sait pas gérer. Mmh. Donc il va y avoir ce qu'on appelle de l'effet domino en série. Vous savez, comme des dominos, un domino renverse un autre domino. Le problème, c'est pas qu'on a trop chaud, et je suis désolée de vous inquiéter. Bientôt, le fait d'avoir trop chaud, ce sera le cadet de nos soucis. Le problème, c'est qu'on doit réorganiser toute notre société pour faire face à ce nouveau monde qui va être dramatique. Donc, la SNCF doit s'adapter. Ils en sont à J+5 du nouveau monde. On peut avoir un peu de tolérance sur le fait qu'ils sont imparfaits. Enfin, c'est normal. J'aimerais vous y voir, vous, à la tête de la SNCF. Pareil pour la production de clim et de ventilateurs. Pareil pour les agriculteurs qui sont en grande difficulté. On n'en a pas encore parlé. J'ai hâte qu'on en parle. Les agriculteurs, si on ouvre le standard aux agriculteurs qui sont en difficulté à cause de la canicule, à mon avis, le standard explose. On devrait essayer de le faire, d'ailleurs. Donc, on a l'effet domino qui fait qu'il y a toute une société qui doit se réadapter. Les pauvres enfants qui passaient le brevet. Bon, je vais pas vous citer 1000 exemples. Juste, on est à l'aube d'un nouveau monde. La question maintenant, c'est comment on s'adapte, et deux, qui sont les personnes adaptées pour le faire. Parce que moi, quand j'entends le gouvernement ne pas penser à la question de... c'est comme le Covid. Il nous faut un vaccin. Ah ben, on n'a pas été foutu de produire un vaccin. Donc, on est dépendant des autres pour avoir un vaccin.
Dans le pays de Pasteur.
Dans le pays de Pasteur. On n'est pas foutu de produire un climatiseur. Mais surtout, OK, le constat, c'est qu'on n'est pas foutu de produire un climatiseur. Très bien, on a compris.
Surtout, on peut dire la même chose pour
les voitures électriques. On n'est pas en train d'essayer de changer ça. C'est ça qui est fou. Ouais. C'est qu'on a des lacunes graves, dramatiques, civilisationnelles. Et on n'essaye pas de les transformer. Voilà.
Jean-Loup.
Non, mais oui, bon, je suis pas expert de la question, mais je constate quand même qu'en Italie, qui est un pays où, en moyenne, il fait plus chaud et qui est théoriquement moins riche, même si en fait je pense que c'est un pays qui se porte mieux que nous, il n'y a pas ces problèmes-là. Bon, je me suis renseigné hier.
Les trains sont climatisés, notamment les TER.
Voilà, et les trains sont climatisés. Au Japon, le Shinkansen, pays avec des événements climatiques extrêmes, avec une grosse amplitude climatique, il fait froid l'hiver, il fait très chaud l'été, c'est caniculaire et étouffant l'été. Le Shinkansen, qui est le TGV japonais, il roule, et sans difficulté, sans retard. Alain, d'ailleurs, en avait parlé la semaine dernière et nous avait donné les chiffres. Bon, mais Bruno pourrait corriger et expliquer tout ça. Voilà ce que tu as dit.
La grande vitesse est dépendulaire en Italie et au Japon.
Et donc, par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, des gens se rallient à Édouard Philippe, qui est l'homme de la fermeture de Fessenheim. Excuse-moi, avoir réduit nos capacités nucléaires, c'était pas vraiment qu'une énergie propre, c'était pas vraiment le meilleur moyen de nous préparer au réchauffement climatique et aux besoins d'électricité dont on va avoir.
Il est peut-être tenté de se bombarder par Trump, parce que dès qu'il y a un peu de nucléaire, Trump...
Oui, mais regarde, depuis 2003, on en a eu des épisodes de chaleur intense.
Parce que là, il va falloir en construire quelques EPR, en fait, et arrêter l'éolien, parce que c'est pas du tout adapté.
Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est... je sais qu'on fabrique pas une rame en 10 minutes, mais je te parle pas uniquement des TGV, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas aujourd'hui à être toujours dans l'anticipation pour les rails, pour les climatisations. etc. Et que donc du coup, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? On annule des trains ou on en enlève ou on déconseille aux gens de le prendre? C'est ça qui est dingue.
Non, mais en fait,
alors qu'on paye alors, quand même.
Oui, on nous explique qu'il faut prendre le train.
Non, mais vous l'avez expliqué. On l'explique en 2018. Il y a eu longtemps une politique qui était sur tout le TGV et en fait, on avait abandonné tous les autres trains du territoire, c'est-à-dire les TER.
C'est les régions maintenant.
Et puis donc c'est les régions. Donc là aujourd'hui, les TER, la plupart de nos TER sont climatisés. Moi, je le prends régulièrement. Les Transiliens sont climatisés. En fait, là, on attend des nouvelles rames pour le TGV. En fait, on est, comme tu le dis, les rames de TGV, c'est Macron qui les a commandées. Il était encore ministre de l'économie Alstom. Donc, t'imagines bien, ça fait plus de 10 ans. Donc, en fait, il faut un temps dingue. Le temps ferroviaire est très long. Là, ça arrive. Mais effectivement, là, les canicules se rapprochent. Mais moi, je vous le dis, je vous le répète. Après, moi, j'entends. Mais moi, je trouve qu'on on fait rouler un maximum de trains dans des conditions extrêmes. Je vous garantis qu'à un moment donné, moi, on a des trains qui roulent dans des conditions où, dans beaucoup d'endroits, ils pourraient pas rouler parce qu'en fait, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et là, aujourd'hui, moi, je trouve qu'on est quand même pas si mal. Mais oui, mais c'est toujours le train en retard qui attirera toujours l'attention. Tous les trains qui arrivent à l'heure, ils marchent quand même.
Et en plus, si tu prends le train avec Olivier Benkemoun.
Ah oui, merde.
Ah oui.
Le pauvre.
Double retard.
RIP.
Merci à tous
Gina.
D'avoir été dans les GG, dans les grandes gueules. Si vous avez raté les GG, vous avez les podcasts à votre disposition. C'est sur l'appli internet, c'est sur l'appli RMC, sur le téléphone portable ou sur notre site internet. Et vous allez sur l'onglet podcast et vous trouvez celui des GG, des grandes gueules. Et puis je vous conseille la petite discussion qu'on a eue pendant la pub où on revenait sur le cas là, en discussion du petit Hamza. Et puis il y a eu cette question posé par Pierre Rey, qui est notre community manager, le petit Hamza du Canal Saint-Martin, il est de droite ou de gauche. Donc je vous conseille d'écouter ce podcast, ça vaut son pesant. Estelle Denis est avec nous. Bonjour Estelle.
Salut Alain, salut les GG. On va parler nous de ces émeutes pour des climatiseurs dans des magasins Lidl. Est-ce qu'on est tous devenus zinzin? On a Benjamin Hamar, notre chroniqueur, qui était ce matin justement dans un magasin Lidl pour en acheter. Il va nous raconter ce qu'il a
vu. Il en a eu un ou pas?
Alors non, il a pas réussi à en avoir. Mais enfin, je peux vous dire que ces scènes l'ont marqué. On en parlera dans un instant dans Estelle Midi. On parlera également des propos de Karine Le Marchand. Tu enlèves la vie, on t'enlève la vie. Elle s'est expliquée ce matin. Elle a un coup de gueule sur Instagram. Mais est-ce qu'une personnalité aujourd'hui peut tout dire? Est-ce qu'on a le droit de tout dire quand on est une personnalité, même des propos qui dérangent? Est-ce qu'on a le droit de donner une opinion? C'est la question qu'on se posera à midi et demi. On parlera bien sûr de ce train qui a écrasé un chat pour ne pas arriver en retard.
Tu le démarres ou tu le démarres pas, le train? Décision.
Moi, je le démarre, mais je comprends que ça puisse émouvoir.
Mais tu le démarres au bout de combien de temps?
20 minutes réglementaires.
Je le démarre.
Tu viens de baisser dans mon estime, mais d'un coup.
Des 20 minutes réglementaires.
Non, mais je ne comprends pas que le chat soit pas remonté. Ça veut dire. Mais bon, après.
Parce que c'est pas son maître qui l'a appelé. Il fallait laisser Benkemoun aller sur les voies, dire minou.
Mais il fallait lui agiter des sardines, des souris, il fallait lui agiter une souris.
Enfin, en tout cas, mais on aura quelqu'un de 30 millions d'amis aussi pour défendre ce chat.
Ils sont très en colère.
Marche blanc.
Ils ont raison. Ils sont très en colère. Donc voilà, écoutez, nous aurons ce débat à 13h30. Si vous avez un chat, appelez-nous. Et dites-nous si vous trouvez ça évidemment scandaleux. Si vous prenez le train et que vous en avez marre des retards de la SNCF, écoutez, appelez-nous aussi. Et puis, on parlera de la pause déjeuner avec une étude incroyable de l'IFOP sur la pause déjeuner. On apprend les habitudes préférées des Français, on apprend tout. 46 minutes, ça dure quand même une pause déjeuner en moyenne chez les Français. Alors, c'est soit un sandwich à la valide, soit une cantine avec les collègues. Mais est-ce que pour vous, la pause déjeuner est encore sacrée? C'est la question qu'on vous posera à 14h. Et puis, le tu préfères. Aïe. J'adore ce tu préfères.
Alors on y va.
Tu préfères aller au marché ou aller au supermarché?
Au marché.
Mais quelle question, voyons.
Je vous assure que dans la bande d'Estelle Midi,
enfin ça c'était avant la canicule.
Tout le monde n'est pas marché.
Ça m'étonne pas.
Mais c'est une émission de droite, c'est normal.
Mais quel rapport?
Il n'y a pas de rapport, c'est gratuit.
Ah parce que le marché c'est de gauche.
Non, parce que les gens de droite, ils ont aucun goût.
Le marché c'est de gauche à la fin du marché.
Excusez-moi, vu les prix au marché, c'est de droite.
C'est ce que je fais.
Oui, mais les gens de droite n'ont aucun goût, ils veulent des supermarchés avec des
dans les cagettes.
De la fast fashion et des parkings.
Allez, bonne émission avec Estelle au 32-16.